Marcher vers le bien-être avec Denis Chagnon.
Chers amis, je suis très heureux de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire de Marcher vers le bien-être. Aujourd'hui, nous nous penchons sur l'engouement sans cesse croissant pour la marche et la randonnée pédestre à travers le monde. Bien sûr, ce phénomène est extrêmement positif pour la santé physique, mentale et spirituelle. Pourtant, la popularité de cette activité simple, abordable et accessible exerce une pression de plus en plus importante sur les milieux naturels et urbains. Il devient alors pressant, sinon urgent, de refonder notre relation avec la nature. Pour nous aider dans notre exploration de cette tendance planétaire, j'ai le plaisir d'accueillir en studio Danielle Landry, dirigeante et fondatrice de l'organisme De Ville en Forêt. Bonjour Danielle et bienvenue à l'émission.
Bonjour Denis, merci de l'invitation.
Alors Danielle, on peut lire sur votre site web que vous êtes une entrepreneure sociale et engagée depuis plus de 30 ans dans l'éducation, l'innovation et la résolution de problèmes sociaux et environnementaux dans les collectivités. Parlez-nous un peu de votre parcours, ce qui vous a amené jusqu'à aujourd'hui.
Ah! Ben oui, il y a ce parcours professionnel, c'est vrai, qui m'a amené à travailler au changement social, changement environnemental, avec une lecture des enjeux assez politiques, des enjeux où la préoccupation pour la justice sociale et environnementale était très importante. Mais dans le dernier virage, en fait, qui m'a amené à faire ce que je fais aujourd'hui, qu'on va un peu explorer au cours de cet entretien, il y a vraiment un moment important, il y a une rencontre qui s'est produite à un moment donné, puis c'est au gré d'une marche, effectivement.
Quelle surprise!
Pas vraiment, hein? Donc, j'ai découvert il y a quelques années le parc Baxter, qui est au nord du Maine. Un milieu sauvage, extraordinairement bien protégé par des amants de la nature, comme il s'en fait peu comme gardien de parc. Et donc, j'ai découvert une montagne dans ce parc-là qui s'appelle le North Traveler. Et mon histoire, c'est un peu la rencontre avec cette montagne-là, le gardien de cette montagne, qui était aussi un talentueux éducateur sans trace. Parce que je sais qu'on va parler du programme Sans Trace aujourd'hui.
Un pédagogue hors pair, c'est ça?
Oh my! Ah oui, certainement. Animé d'une grande volonté aussi de contribuer à la création d'une relève. Et la rencontre a permis qu'il porte le regard sur moi et qu'il me voit comme une personne qui, possiblement, pourrait jouer ce rôle-là.
Vous l'avez rencontré au hasard, comme
absolument.
Ça?
Absolument. Ben oui et non, puisqu'en fait, c'était le gardien de cette montagne. Donc, obligatoirement, oui. En se présentant sur les lieux, on rencontrait Gabriel Williamson, qui était donc ce gardien.
Il vous a donné le goût des randonnées, de la marche, de la nature?
Ça, je l'avais déjà par mon père. Qui m'avait grandement initié, puis qui, par son exemple aussi, m'avait beaucoup inspiré. Ça, je l'avais. Ça allait. Par contre, je n'avais pas cette dimension aussi importante de protection de la nature. C'était peut-être pas aussi bien intégré que ça l'est maintenant, certainement. Et avec Gabriel, ce qui s'est produit, c'est la possibilité de connaître une façon de le faire, d'initier moi-même et les autres à cette plus grande protection du milieu naturel. Donc, ça a été une rencontre extrêmement importante. Et beaucoup plus tard, une fois que j'ai été initiée au programme Sans Trace, j'en ai vu le potentiel, j'ai fait la rencontre d'une autre personne qui a été mon formateur, en fait, aux États-Unis aussi, donc Ryan Doyle. Et Ryan a vu en moi un peu ce que Gabrielle avait reconnu, cette capacité d'être une éducatrice auprès des autres, mais en fait m'a appuyée dans l'appropriation de ce nouveau rôle-là qui a permis de créer De Ville en Forêt par la suite puis faire le travail que je fais maintenant. Donc, il y a des belles histoires de rencontres dans des milieux de nature au gré de la marche et de la découverte des lieux.
Donc, c'est ce qui vous a amené à créer, à fonder votre De Ville en Forêt, dont nous allons parler abondamment aujourd'hui. Pourquoi ce nom? Pourquoi De Ville en Forêt?
Ah, De Ville en Forêt, ben, En fait, imaginez le nom de son entreprise. C'est penser à son rôle, quel rôle on veut qu'elle joue, en fait, dans l'ordre des choses. Et pour moi, au gré de mes recherches, du développement de ma capacité à faire ce travail, j'ai compris le rôle de la connectivité entre tous les éléments de la nature et toutes les parcelles de nature. Alors, de la ville à la forêt, c'est cette idée de la connectivité et du trajet que nous-mêmes, on doit faire pour aller à la rencontre de la nature plus sauvage, si on est des urbains. Je suis une urbaine. Je vis en ville, comme 80 % de la population du Québec.
Et 70 % de la population de la planète, en fait. Voilà. De plus en plus, nous devenons urbanisés.
Voilà.
Ça s'est fait tout naturellement, donc.
C'est vrai. En même temps, il y a un effort délibéré pour essayer de voir au Québec où est-ce qu'on en était avec cette éducation relative à l'environnement en rapport avec la nature. Et là, j'ai découvert Centrace Canada, qui était une organisation qui portait cette préoccupation-là et le programme Centrace ici au Québec. Donc, il y a eu une décision stratégique aussi, considérant l'existence de cette organisation-là, de devenir un allié pour l'organisation pour porter le message plus efficacement auprès de tout le monde, auprès des organisations aussi. On en parlera tout à l'heure de toute façon.
Parlant justement de cette sensibilisation, quelle est la mission de votre de ville en forêt, la vision que vous avez de votre petit bébé, dans le fond?
Oui. Alors, considérant que les gens cherchent en fait à faire beaucoup mieux et à faire plus pour l'environnement, pour la protection de la nature, on constate ça. C'est facile à constater qu'il y a cette conscience qui est en éveil et qui cherche des moyens d'action. J'ai pensé que c'était important de développer une organisation qui allait permettre de développer ce savoir-faire chez les gens, mais chez les organisations aussi, pour que les organisations appuient les citoyens, les marcheurs, appelons-les comme on veut, qui souhaitent avoir un rôle et régler des problèmes, en fait, dans les milieux naturels. Alors, ils peuvent donc, les marcheurs, à la fois poser des problèmes au milieu naturel, mais peuvent être aussi la voie de solution à ces problèmes-là. Alors, c'est ça qui m'a intéressée. Comment on peut développer ce savoir-faire-là en misant sur la volonté et le développement de la capacité des gens à partir des connaissances que pouvait nous livrer un programme aussi bien structuré que le programme Centrace.
Et l'expertise que l'on retrouve chez ces autres organisations au Québec, au Canada, un peu partout.
Oui,
donc, c'est un partenariat que vous tentez de mousser, d'encourager, de dynamiser, d'énergiser, c'est ça?
On pourrait dire comme ça, à la mesure de mes moyens.
Oui.
Bien sûr. Bien sûr.
Alors, sur votre site, on voit aussi un onglet qui porte le titre de « Éthique du plein air ». Donc, est-ce que ça rejoint un peu cette plus grande sensibilisation que nous avons vue depuis, quoi, 10 ans, 20 ans, 30 ans peut-être? Graduellement, nous sommes venus avoir une meilleure conscientisation de l'importance de la nature. Et est-ce que ça se traduit justement par une éthique du plein air?
Je pense que l'éthique du plein air, en fait, vient interpeller nos valeurs profondes. Et tente de nous amener à incarner ces valeurs-là dans des gestes concrets. Donc, dans ce sens-là, oui, ça peut rejoindre ce mouvement de conscientisation dont vous parlez. Par ailleurs, je crois que la conscience en général s'est éveillée par rapport aux grands enjeux environnementaux pour lesquels on a des indicateurs assez importants. Changement climatique, déclin de la biodiversité. Il y a des grands acteurs internationaux et des grands acteurs canadiens. Sur les impacts écologiques, donc dans le milieu naturel lui-même, je pense qu'il y a encore beaucoup à faire. Heureusement, on a de grandes organisations qui, à partir de leurs connaissances, sont capables de nous éclairer sur ces problèmes qui sont posés dans les milieux naturels. Et le fait de le ramener à l'échelle de l'individu pour qu'il ait des moyens d'action, peut-être que là, il y a pas mal de travail à faire, mais effectivement, l'éthique de la Terre ou l'éthique du plein air devient un cadre de référence pour penser ce rapport-là au milieu et la traduction de la pensée en action.
Alors, je parlais au début de l'émission, justement, de l'engouement de la marche et de la randonnée et l'impact sur les milieux naturels. On parle de quoi? Du sol, de la faune, de la flore, de tout ce qui est composante du milieu naturel.
Oui, des écosystèmes.
Des écosystèmes,
en fait. Qui donnent sa vitalité à la biodiversité, c'est vrai. Mais on parle aussi des processus qui les lient entre eux. Ce sont des milieux vivants, en fait. Donc, quels sont ces processus qui maintiennent la vie? Alors, ça aussi, on peut interférer avec ces processus-là si on ne sait pas comment modérer, en fait, notre fréquentation et s'assurer de réduire nos impacts.
Alors, nous prenons une petite pause et ensuite, nous parlons du programme Sans Traces qui nous permet justement de minimiser ou peut-être d'éliminer notre impact sur le milieu naturel. Nous voici de retour avec Danielle Landry, dirigeante de Deux villes en forêt. Il faut faire bien attention, Deux villes en forêt. Nous parlons du programme Sans Traces. Sans Traces, c'est justement cette initiative qui nous permet de minimiser notre impact sur la nature, sur tous les milieux naturels. Pourriez-vous nous décrire ce programme dans son ensemble d'abord, ou la raison d'être du programme?
Vous l'avez tellement bien résumé. Effectivement, on veut réduire l'impact de nos activités dans les milieux naturels parce que nos activités, les événements auxquels on participe, etc., ont un impact cumulatif. Alors, l'hypothèse, c'est que si on est capable, chacun, de prévenir certains impacts ou de les réduire, on va réduire cet impact cumulatif qui est indéniable, et on va donc avoir une fréquentation qu'on appellera plus responsable, et on va permettre en fait que les milieux naturels soient plus durables, etc. Et ceci dit, qu'ils puissent offrir les services écologiques aussi de façon durable et jouer le rôle qu'on attend d'eux, par exemple, par rapport à la lutte au changement climatique. Donc tout ça est un peu interrelié, hein. Alors, le programme Sans Traces, qu'est-ce qu'il fait? Ben, la première chose qu'il a fait, ce programme, ça a été de comprendre comment ces interactions entre les activités, par exemple la marche, et le milieu naturel pouvaient compromettre les composantes du milieu naturel et certains processus, et le comprendre de façon telle qu'on est capable, après, de l'expliquer, de le faire comprendre et de donner de façon sûre des conseils sur comment agir, comment adapter notre comportement, quelle technique, quelle habilité pratiquer pour être sûr de réduire notre impact. Alors, il y a des impacts qui peuvent être évitables, puis il y en a d'autres qui sont complètement inévitables, c'est vrai. Alors, on apprend aussi à faire cette distinction et agir ce sur quoi on peut agir et essayer, comme marcheur, en fait, d'avoir cette appréciation du milieu qui permet aussi de faire peut-être certaines concessions. Il y a certaines choses qu'on ne voudrait pas, en fait, changer, même si on sait que ça a beaucoup d'impact sur le milieu. Oui. Je pense au feu de camp. Mais on apprend l'importance de concéder parce qu'on comprend mieux comment ça affecte la nature et on prend des décisions qui vont en fait changer même la façon de mener nos activités.
Pour mieux saisir les nuances, pourriez-vous nous décrire la différence ou donner des exemples d'évitable et inévitable, justement?
Ah oui, c'est bon. Bon, alors, par exemple, ce qui est absolument évitable va être de jeter, par exemple, des déchets dans le milieu naturel. Je pense, par exemple, aux déchets organiques, qui souvent sont considérés comme faisant partie de la nature.
Un peu naturel aussi, quand même. Oui,
ouais, ça a l'air de ça, c'est ça.
Oui, c'est ça.
Par contre, le cœur de pomme ou votre pelure d'orange, elle n'appartient pas à ce milieu-là. Oui. Donc, elle vient de par sa présence et le cumul de plusieurs déchets dans le milieu naturel, elle va venir déranger cet équilibre-là, exposer les animaux à de la nourriture auxquels ils ne sont pas habitués, les rapprocher des sentiers alors que d'habitude, ils fréquentent le boisé plus éloigné, bon, etc., etc. Donc, on va venir changer des choses dans l'équilibre du milieu. Alors, ce faisant, cette pelure et tout pourrait être absolument ramenée à la maison et pourrait faire en sorte que cet impact évitable soit complètement éliminé. L'inévitable serait, par exemple, la fréquentation par les sentiers d'un milieu. On veut permettre aux gens de, évidemment, vivre l'expérience en forêt. On crée des sentiers pour concentrer l'impact. C'est inévitable en fonction du choix qu'on a fait. Et c'est correct. Alors, il faut absolument trouver, par contre, comment pas élargir l'impact de ce sentier sur le milieu. Mais il est la construction même du sentier, sa fréquentation est inévitable.
Donc, étant donné la grande popularité des randonnées en forêt surtout, on le voit de plus en plus, surtout pendant la pandémie peut-être, les gens voulaient sortir, aller dans le grand air et ainsi de suite. Pour minimiser cet impact justement d'un plus grand nombre de personnes, le programme Centrace a mis sur pied des principes.
Oui,
voilà. Sept principes. On pourrait peut-être en parler un peu parce que justement, ça nous donne de bons conseils. De bonnes procédures à suivre pour minimiser notre impact sur l'environnement.
Tout juste. Alors, on a parlé de la science tantôt, que le programme Centrace a permis, en fait, de faire émerger pour comprendre ces impacts sur le milieu naturel. Une fois qu'on a fait ça, on a été capable, effectivement, de développer les sept principes auxquels vous venez de faire référence, qui permettre, en fait, de mieux comprendre, comme on l'a dit, comment notre fréquentation affecte le milieu et savoir quelles habiletés, quelles techniques on peut pratiquer dans le milieu pour les éviter ou les réduire. Alors, ces sept principes vont concerner, par exemple, tout ce qui est préparatif, comment on arrive à faire des préparatifs qui vont permettre qu'on prévoit toutes les éventualités et qu'on ait le moins d'impact possible par le fait de prendre de mauvaises décisions parce qu'on serait mal préparé, mal renseigné. Par exemple, si je ne sais pas qu'il y a un conflit potentiel avec des ours sur un parc, je peux ne pas prévoir de mettre à l'abri des ours ou d'autres gros mammifères la nourriture que j'ai apportée. Alors, ça va vraiment avoir un impact sur mes préparatifs et sur l'équipement que je vais apporter. Dans l'occurrence, j'apporterai un baril à l'épreuve des eaux pour pouvoir mettre mes aliments là-dedans si je fais de la longue randonnée, par exemple. Alors, on va donc pouvoir mieux se préparer. Par les autres principes, on va s'intéresser justement à minimiser l'impact des feux, à gérer aussi adéquatement nos déchets, tout type de déchets, incluant nos déchets humains, c'est-à-dire nos excréments. On va s'intéresser justement à comprendre ce que sont les surfaces durables pour pouvoir toujours détecter dans un milieu, repérer, identifier les surfaces durables pour se déplacer sur ces surfaces-là. Et bon, quand il y a un sentier, il n'y a pas d'ambiguïté, mais dans certains cas, il faut sortir du sentier. Et donc, par exemple, à ce moment-là, quelles sont les surfaces sur lesquelles je peux me déplacer? Je pense aux gens, par exemple, qui vont sur un sommet de montagne et qui vont peut-être sortir du sentier pour aller camper, par exemple, parce que c'est permis. Mais sur quelle surface ils vont pouvoir le faire? Il faut apprendre à pouvoir les reconnaître. On va parler aussi du patrimoine naturel. Patrimoine naturel, patrimoine culturel, qui est aussi à conserver dans les milieux naturels. Mmh. Et c'est une dimension auquel on peut être un peu moins sensibilisé, souvent.
On y pense un peu moins, tout simplement.
Oui, absolument. Mais cette responsabilité de conserver le patrimoine comme un élément constitutif du legs aux prochaines générations, ça fait partie aussi de cette éthique dont on parlait tantôt, l'éthique du plein air.
Il me semble qu'un des principes nous invite à laisser intact ce que l'on trouve par terre, parce que, bon, on se promène en forêt, c'est beau. Ah! Belle petite fleur, j'aimerais la rapporter. Ou une pierre qui a une belle forme, j'aimerais la rapporter avec moi. Vous suggérez de tout laisser sur place.
Oui, ou de respecter en fait aussi les règles que les gestionnaires ont mises en place, ou nos lois.
Vous savez
que sur, par exemple, la question des artefacts culturels dans les milieux naturels, ils sont protégés par des lois. Même chose pour la culture de certaines espèces qui sont des espèces à statut précaire. Je pense par exemple à l'ail des bois. On pourrait pas ramasser, on peut en ramasser, mais on peut pas en ramasser plus que 50 bulbes sur un certain... sur une certaine parcelle. Donc, voilà. Donc, il y a des règles qui encadrent, il y a des réglementations qui sont créées. Donc, on est à l'intérieur de ce cadre-là quand même pour permettre certaines activités. Mais de façon générale, on va fortement encourager les gens à vraiment retenir le geste que l'on a souvent, qui est de s'approprier des éléments de la nature et de les rapporter chez soi pour le plaisir du souvenir, etc. Mais vous savez qu'il y a des campagnes qui ont été créées pour nous encourager à ramener des trucs qu'on avait pris de la nature. Par exemple, en Angleterre, il y a des plages où on nous demande de rapporter les galets. Parce que les gens se sont appropriés les galets sur la plage.
Oui.
Et on se retrouve avec des plages qui, maintenant, n'ont pas la même beauté qu'ils avaient avant. Alors là, on demande aux gens de les rapporter.
Avant de passer à la pause, j'aimerais peut-être reprendre un propos que je trouve très important de votre part. Les principes reposent sur la connaissance, la recherche, la science même. Et pour vous, c'est très important.
Oh, c'est essentiel. C'est essentiel. Et ceci dit, la recherche n'a pas tout révélé. La nature est extrêmement complexe. Et donc... on doit continuer à faire de la recherche pour continuer à développer nos connaissances. Mais déjà, ce qu'on sait, on ne peut pas faire autrement que d'en tenir compte pour justement adapter notre comportement et prendre de meilleures décisions en milieu naturel. C'est impératif.
Et nous passons à une brève pause et nous revenons tout de suite. Merci.
Je m'en vais vivre dans le bois si la forêt veut bien de moi. Toucher la parole des pierres, celle des rivières, celle qui remonte le temps, vivre profondément. Je m'en vais vivre dans le bois. Je Bye.
Nous sommes de retour à l'émission Marcher vers le bien-être en compagnie de Danielle Landry, directrice, fondatrice même de Ville en forêt. Nous poursuivons, en fait, avec une citation que je trouve magnifique, que vous m'avez proposée. Elle est de M. Aldo Leopold. Nous abusons de la terre parce que nous la considérons comme une commodité qui nous appartient. Si nous la considérons au contraire comme une communauté à laquelle nous appartenons, nous pouvons commencer à l'utiliser avec amour et respect. Et j'ai l'impression que c'est un peu ce qui vous anime aussi.
Oui. Oui, et Aldo Leopold, après sa mort, en fait, on a publié un livre qui est extrêmement important dans l'évolution de la pensée écologiste et pour le programme Centraise comme pour moi, c'est des sources d'inspiration. Son livre était... Le titre était « Almanach d'un comté des sables ». Moi, je le propose à tout le monde comme lecture. Et ce ne serait pas la seule, d'ailleurs. Oui, c'est absolument important. Puis, on a des... Ce qui est extraordinaire aussi, c'est de continuer à se documenter, à réfléchir à ces questions-là, à cette notion de la communauté. J'aimerais ça aussi vous suggérer les travaux de quelqu'un de vraiment important ici, qui était en fait l'ancien rédacteur en chef de la revue Nature Sauvage, qui est Michel Leboeuf. Et Michel Leboeuf a publié un livre qui s'appelle « Paroles d'un bouleau jaune ». Alors voilà,
c'est joli.
Oui.
C'est joli.
Voilà un marcheur qui marche ses terres et qui rencontre un bouleau. Et grâce au récit que ce bouleau-là va lui faire, il va mieux comprendre l'écosystème et cette communauté que tous les êtres vivants entretiennent entre eux. Donc, c'est peut-être une référence qui pourrait être intéressante pour les auditeurs pour ancrer un peu cette idée de communauté, mais dans le réel d'ici, avec les espèces d'ici.
La nature elle-même est une communauté. On en parlait récemment. Les forêts d'anciens arbres, les vieilles forêts de la Colombie-Britannique, par exemple, pour ceux qui les ont visitées, qui ont parlé, qui ont écouté ces arbres, on se rend compte que c'est une vie exceptionnelle. Les arbres se communiquent entre eux par les racines. Ils semblent se parler même. Et c'est une communauté à laquelle, comme le dit Aldo, nous considérons comme des objets pour la consommation, alors que nous faisons vraiment partie de la nature. Je suis la nature, dans le fond.
Oui. David Suzuki a dit ça. Je suis la nature.
Et c'est juste, c'est juste.
Oui.
Bon, nous avons parlé beaucoup de la forêt, les randonnées en forêt et tout. Je pense qu'on saisit bien le message. Et sur votre site, évidemment, on peut retrouver toutes sortes de documentation qui va nous renseigner davantage sur ce phénomène. Je reviens à l'autre partie du nom de votre organisme, de Ville en forêt. On a parlé de forêt, mais de la ville. Mm-hmm. On peut peut-être s'attarder un tout petit peu sur cet aspect-là, peut-être un peu. Plus qu'un petit peu, parce que la plupart d'entre nous vivons dans des villes, justement. Est-ce qu'il est possible de valoriser la nature en ville? Ça veut dire quoi, de ville en forêt, et le mouvement ou la sensibilisation que vous tentez de faire pour nous qui sommes urbains?
Mm-hmm. Dans mon esprit, en fait... la ville offre une occasion extraordinaire pour le marcheur parce que le terrain est vaste, il est bien aménagé, donc ça lui permet de se promener un peu partout. Et la nature dans une ville comme Montréal ou d'autres villes du Québec est assez présente. C'est une ville, c'est une nature un peu sous pression, certainement, par contre, et... le marcheur peut comprendre ça et découvrir en fait que cette nature, elle a besoin, pour continuer à être en santé, elle a besoin de notre appui, du soutien que lui donnent les gens à travers le respect qu'ils vont lui porter, mais aussi les aménagements qu'on va créer pour permettre que cette nature-là soit la plus en santé, comme je l'ai dit, la plus vivante, vibrante. Donc, dans les villes, moi, je pense que le programme vient aider les gens à comprendre un peu ce rôle qu'ils peuvent jouer en réduisant l'impact. Mais c'est absolument essentiel de s'assurer, de comprendre aussi comment nos villes sont en train d'aménager, par exemple, ce qu'on appelle des corridors de connectivité.
Corridors de connectivité, ouais. D'espace vert.
Oui, absolument, mais tout type d'espace vert. Le plus petit peut être connecté à un ensemble.
Par exemple.
Ouais. D'abord, parlons du rôle de la connectivité, à quoi ça sert. Hein? C'est pour permettre le déplacement des espèces, donc la végétation et aussi les animaux qui vont aller trouver de la nourriture, un partenaire pour l'accouplement, un abri, etc. Tout ce dont ils ont besoin pour leurs besoins vitaux. Donc ça, c'est la première chose à quoi ça sert. Mais des exemples, on a des corridors de connectivité, mais il y en a un là, il est extraordinaire du point de vue aussi du marcheur qui va pouvoir découvrir ces corridors-là. C'est un corridor qui est promis. J'espère qu'on fera les travaux qui sont annoncés. En fait, c'est un corridor qui va connecter le bois de Saraguay au nord, donc près de la rivière des Prairies, au parc en Grignon. Plus de 27 kilomètres de corridor où on va s'assurer. En fait, on utilise en partie les installations d'Hydro-Québec qui va transformer ces lignes en espaces verts et en corridors qui va permettre donc la mobilité des espèces, mais aussi la nôtre. Il y aura un sentier pédestre qui va lier tout ça. Ça, c'est le projet.
Donc, tout ça interconnecté, si vous voulez, la connectivité de plantes, d'animaux.
Oui.
C'est une espèce de chemin, de sentier, de
C'est ce qui est envisagé.
Route. C'est formidable.
Absolument, annoncé par notre mairesse. Les travaux devront commencer en 2023. Alors, on pense à celui-là, on pense au corridor d'Arlington aussi, qui lie le campus de l'Université de Montréal, où on a établi une forêt nourricière, avec la voie ferrée le long de Jean Talon en passant par le corridor d'Arlington, donc l'avenue d'Arlington, sur laquelle on a implanté pas nécessairement des espaces verts, mais des installations végétales tout au long. Avec le temps, ça va se développer, c'est sûr, mais l'idée étant toujours la même, de prévoir ces corridors où les individus, les résidents de la ville sont appelés à être pour justement interagir avec la nature et créer cette communauté dont on parle depuis tout à l'heure.
Donc, ça nous aide à changer la perception de la marche en ville. Ce n'est pas nécessairement ou uniquement de marcher sur des trottoirs ou traverser des rues, mais c'est vraiment de suivre la nature, littéralement, le long de ces corridors.
Vous avez raison. Et d'apprendre. Et à partir de l'apprentissage qu'on fait, de la découverte, de l'observation, on va peut-être être d'autant plus motivé à faire des efforts qu'on n'aurait pas fait autrement.
Bon, alors après la pause, une petite expérience au Japon.
Ma vie est un long chemin sans fin. Et je ne sais pas très bien où je m'en vais. Puis je cherche dans les faubourgs et les villes. C'est dans l'espoir d'accomplir mon destin. Ben, mille après mille, je suis triste. Puis mille après mille, je m'ennuie. Puis jour après jour sur la route, tu ne peux pas savoir comme je peux t'aimer. Chaque mille que je parcours me semble inutile. Je cherche toujours sans rien trouver. Puis je vois ton visage qui me hante. Je me demande pourquoi je t'ai quitté. Ben, mille après mille, je suis triste. Puis mille après mille, je m'ennuie. Puis jour après jour sur la route, Tu ne peux pas savoir comme je peux t'aimer. Et qu'au fond de moi j'aurais trouvé cette paix dont je sentais le besoin. À ce moment je pourrais m'arrêter. Ben mille après mille, je suis triste. Puis mille après mille, je m'ennuie. Puis jour après jour sur la route, tu ne peux pas savoir comme je peux t'aimer. Tu ne peux pas savoir comme je peux t'aimer. Tu ne peux pas savoir comme je peux t'aimer.
Nous voici de retour en compagnie de Daniel Landry. Daniel, c'est magique ce concept de corridor, de connectivité. Ça me rappelle une expérience au Japon que nous connaissons tous les deux. Et ce chercheur qui a fait le tour de la planète en fait pour étudier les forêts, pour reboiser surtout des terres arides, a eu la brillante idée de créer des micro-forêts, non pas des mini-forêts, mais des micro-forêts à Tokyo, dans une mégapole peut-être la plus grande au monde. Et chaque parcelle de terrain de 3 mètres carrés, 10 mètres carrés, contient tous les éléments d'une vraie forêt. C'est absolument fabuleux. Et le plus intéressant, comme vous l'aviez souligné, c'est que la plupart ou un bon nombre de ces micro-forêts sont dans les cours d'école. Quelle belle expérience, n'est-ce pas, pour les jeunes?
Vous avez tellement raison. En fait, il vient du coup de leur léguer une compréhension du rôle de l'arbre dans leur vie. Alors, ça fera peut-être des gens qui comprendront davantage pourquoi il faut travailler à implanter la nature un peu partout dans notre ville pour qu'elle en fasse plus partie, qu'on tisse bien le lien entre nature et êtres humains. Et ce qu'on voyait aussi dans le récit de cette expérience-là, c'est le rôle qu'il a donné aux citoyens en général. Ce sont eux qui sont allés planter tous ces arbres un peu partout, à l'entour des cours d'école et des bâtiments, comme vous le mentionniez tout à l'heure, ou ces petites forêts, micro-forêts au coin des rues. Et en fait, en faisant ça, en s'associant aux citoyens, encore là, on partage cette connaissance du rôle des arbres dans leur vie. La possibilité qu'ils comprennent mieux comment les protéger. Parce que c'est important que les citoyens comprennent ça pour qu'ils appuient les décideurs, pour qu'ils soient capables de demander à leurs décideurs de continuer ce mouvement-là. Il faut qu'il soit repris, en fait, il faut qu'il y ait une infrastructure qui soutienne l'implantation de la nature et le respect de l'intégrité de la nature pour qu'elle puisse apporter ce qu'elle a à nous apporter dans nos vies.
Est-ce que ce genre de mouvement est réaliste, possible ici, au Canada, à Montréal, au Québec, et ainsi de suite?
Ah oui, oui, absolument. Et je pense qu'il y a, je ne sais pas si c'est par le biais de la microforêt, là, ceci dit, mais il y a beaucoup d'initiatives, justement, qui associent présentement les citoyens à la conservation de milieux naturels, à la revitalisation, qui réfléchissent ce rôle de la nature dans les villes via l'agriculture urbaine, par exemple, ou via des projets de renaturalisation, etc. Il y a de nombreuses initiatives. Alors, je pense que oui, on est dans une belle ère à cet égard-là. Et il faut que, je pense, les citoyens découvrent chacun la voie par laquelle eux-mêmes, ils veulent jouer un rôle là-dedans. Il y a tellement de possibilités.
On parle souvent à Montréal de ruelles. Il y a des centaines de ruelles qui sont magnifiques pour le randonneur, pour la marcheur. On y voit, en fait, on y découvre une ville, on y découvre une nature aussi.
Oui, et on découvre aussi les vertus des friches.
Des friches, oui.
La nature laissée à l'état sauvage. Parce que la ruelle, elle est souvent un peu domestiquée. Elle est valable dans tout ce qu'on vient de dire. On voit bien le rôle de cette nature-là. Mais il y a aussi le rôle de la friche, celle où on ne contrôle rien, en fait. Et on essaye de laisser la vie s'exprimer, se développer, et on laisse, en toute confiance, la nature s'occuper d'elle-même, d'une certaine façon. Alors, ça aussi, à Montréal, on a ça, on a des lieux en friche. Hein?
Et on le voit un peu partout aussi au Québec. Et de plus en plus, on voit... On constate que certains propriétaires, par exemple, privilégient un potager plutôt qu'une pelouse devant leur maison. Oui. Ça, on le voit de plus en plus, n'est-ce pas? C'est un peu le même principe.
Oui, avec les municipalités qui acceptent, qui assouplissent les réglementations, avec peut-être une meilleure acceptabilité sociale de cette idée-là. Tout ça se tient ensemble. Hein? je pense qu'il y a ce mouvement-là. En même temps, il ne faut pas nier qu'il y a des forces aussi qui exercent une sacrée pression sur les milieux naturels. On a vu encore des destructions de milieux naturels. Ça continue, ce mouvement-là. Et on voit des espèces encore disparaître alentour de Montréal. On a des espèces menacées. La rainette faux-grillon, par exemple, est un de ces exemples. Y a ces deux forces-là jouent, en fait. Mais souhaitons qu'on prenne acte de notre pouvoir comme citoyen et qui s'éveille au gré du plaisir qu'on a par la marche. Moi, j'y crois beaucoup. Hein?
Ben, j'allais justement ajouter, c'est par la marche qu'on découvre en fait le bien-être qui peut nous, en fait, qui nous est donné gratuitement de par la nature.
Oui.
Les parcs, les corridors éventuels de connectivité.
Oui.
Tout passe par la marche.
Et la conscience, je dirais. Parce que c'est une marche consciente, non?
C'est une marche consciente.
Oui.
Bon, Daniel, tout ça requiert de la sensibilisation, de l'éducation, de la formation. C'est un peu votre mission également, n'est-ce pas?
Oui, bien sûr.
Alors, au niveau de la formation, qu'est-ce que vous offrez aux gens qui veulent en savoir davantage sur le programme Centrace, y participer même, ou des activités écologiques?
D'accord. Alors, le programme Centrace a vraiment bien pensé la structure de formation. Alors, une partie de mon travail, c'est de faire en sorte que je puisse livrer ces services de formation qui vont permettre aux gens, selon l'objectif qu'ils se donnent, de bien comprendre les fondements scientifiques et éthiques des sept principes Centrace. Ça, c'est vraiment notre pierre d'assise.
Les sept principes.
Absolument, ouais. Qu'on a rapidement évoqué tout à l'heure.
Oui.
Deuxièmement, une fois qu'on possède bien ça, l'idée, c'est de développer un espèce d'art de la pédagogie. Comment je vais pouvoir le transmettre, soit à mes amis, si c'est dans mon petit réseau seulement que je peux avoir de l'influence, ou alors, si je suis un guide aux clients que j'amène en milieu naturel, si je suis une organisation, comment on va mettre en place, en fait, une structure pour faire de l'éducation des publics. Donc ça va être la deuxième chose. Et la troisième, c'est évidemment imaginer comment on va passer à l'action. Alors moi, j'essaie, à travers les formations que je tente de mettre le plus possible à la mesure des groupes avec lesquels je travaille. On essaie de livrer ces services-là le mieux possible. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, évidemment, j'ai la responsabilité aussi de me tenir à jour, donc de me documenter sur les enjeux dans les milieux naturels. Qu'est-ce qui se passe ici? Quels sont les problèmes, en fait, qu'on rencontre? À quoi faut s'accrocher, s'attaquer pour essayer de trouver des solutions? Et cette connaissance-là me permet, après, de pouvoir aller travailler avec des organisations, soit des municipalités ou alors les fédérations de plein ou alors d'autres organisations, un gestionnaire par exemple de parc, etc. Donc, travailler avec cette organisation-là à faire en sorte qu'on soit capable de reconnaître les impacts qui sont déjà notables sur le milieu naturel où ils accueillent des publics, pour permettre après de développer une stratégie qui va permettre à la fois de bien gérer les impacts qui sont là et aussi d'encadrer la fréquentation des publics à l'aide des 7 principes sans trace. Alors, comment faire ça sur un milieu pour qu'en fait le programme puisse implanter et servir d'appui pour faire l'éducation des publics et l'encadrement de leur comportement. Alors, ça, c'est une deuxième partie. L'autre chose, c'est que je travaille avec des organisations à faire en sorte aussi de créer des ressources pour rejoindre leur public et leur permettre de livrer ce message sans trace le plus possible. Encore là, le rôle de la science est très important. Le plus possible en fonction des impacts dans leur milieu. Pas toujours un message générique, mais un message bien adapté pour, en fait, interpeller les gens par rapport à des problèmes dans un milieu, pour les engager dans l'action pour trouver des solutions. Toujours avec le même cadre de référence, les 7 principes sans trace. J'ai peut-être oublié de mentionner que je travaille aussi avec les organisateurs d'événements en plein air, pour la même raison, c'est-à-dire pour les accompagner dans l'intégration du programme sans trace pour qu'ils soient capables de mettre en place des mesures pour réduire l'impact de leur événement et faire l'éducation des publics. Alors, voilà.
Surtout de nos jours, nous avons des événements qui rassemblent des dizaines de milliers de personnes, parfois,
oui.
Dans des milieux naturels, parfois aussi, beaucoup de bruit. Est-ce que ça ne dérange pas? Est-ce que ça ne va pas un peu à l'encontre, justement, des 7 principes du sans trace, ou s'il faut quand même trouver cet équilibre entre les activités sociales, culturelles et le milieu naturel?
Oui. Ben, en fait, oui, je pense qu'il faut trouver l'équilibre, et il faut trouver l'équilibre avec le milieu naturel et la collectivité. Quelquefois, c'est les collectivités qui réagissent aussi parce qu'ils ont l'impression que le milieu naturel auquel ils tiennent tellement est en train d'être, en fait, dérangé au point où il risque, des impacts majeurs. Ou alors, c'est leur propre qualité de vie qui peut être attaquée aussi, et donc ils vont réagir. Alors là, il faut aussi tenir compte de l'impact sur les collectivités. Mais ceci dit, oui, les événements peuvent créer beaucoup d'impact. En même temps, il y a une prise de conscience chez les organisateurs d'événements de plus en plus par rapport à leur responsabilité à l'égard de l'environnement. Donc, du travail qui est fait pour avoir une gestion plus éco-responsable des milieux. Et présentement, tout ce qui pourrait servir à avoir un peu plus de respect face au milieu naturel est en train d'être intégré par ces organisateurs d'événements. Le bruit est certainement un des éléments, en fait, qui est le plus sous-estimé. Et en fait, c'est parce que la science a été très longue à nous révéler l'impact du bruit aussi sur les espèces. Alors, on est en train de découvrir, en fait, à quel point c'est dérangeant. Et quand on sait qu'il y a un déclin des espèces autant végétales qu'animales, on peut penser que ce bruit est un des éléments qui vient nuire à leur milieu, à leur santé. Et ce faisant, on peut penser que ça peut contribuer effectivement à ce déclin-là. Alors, il va falloir peut-être en tenir davantage compte qu'on le fait maintenant. Donc, l'impact du bruit sur les espèces, l'impact de la lumière aussi.
La lumière, oui.
Oui, alors, c'est des grands faisceaux lumineux, là, tu sais, avec les événements. Ce sont tous des questions sur lesquelles on se penche et la science nous aide à éclairer ça, mais c'est très complexe, souvent. Et puis, des fois, il y a des oppositions entre des intérêts, évidemment, financiers, économiques et des préoccupations qu'on peut avoir envers l'environnement et l'écologie des milieux. Donc, yes.
Mais ça prend forme.
C'est ça.
On commence à justement voir au bon mariage là, de ces deux intérêts, disons, parfois un peu divergents.
Oui, oui. On peut dire que c'est un processus d'amélioration continue.
Tout à fait. Oui. Ça me rappelle une remarque que l'on fait souvent dans les maisons. Si on joue de la musique de Mozart, par exemple, les plantes semblent mieux se porter. Donc, il y a définitivement un impact. Le bruit est très important, en fait, pour la faune, pour la flore.
Oui. Oui.
effectivement.
Écoutez, pour ce qui est de la formation, vous avez aussi de l'accompagnement. C'est en sens que vous promenez justement avec des groupes en forêt. Vous avez des randonnées, ou c'est seulement que pédagogique un peu en salle ou comment se...
En fait, pour ce qui est de l'accompagnement d'un groupe, par exemple, en milieu naturel, personnellement, je m'associerais à une organisation qui le fait, à des collègues qui sont guides, par exemple, qui amènent des groupes. Je ne fais pas personnellement d'accompagnement dans les milieux naturels, mais je croirais beaucoup à la force de ce partenariat avec quelqu'un qui est vraiment, pour qui c'est vraiment le forte, la mission d'amener les gens dans ces milieux avec tout, en respectant toutes les règles de sécurité, en fait, qui vont de soi quand on va dans les milieux naturels, et permettre, en fait, qu'il y ait une réflexion qui s'ajoute et un changement de comportement grâce à l'apport du programme Centrace. Il me semble que ça va de soi de mettre ça ensemble, mais je crois que je préfère, en tout cas, pour ce qui est de l'accompagnement des groupes, de moi-même m'associer, comme je l'ai dit tout à l'heure, à quelqu'un qui le fait si bien, plutôt que moi être en train d'associer beaucoup trop d'éléments et de perdre le focus. J'essaie vraiment de rester focussée sur les impacts écologiques et sociaux des activités en plein air et de m'en faire vraiment une spécialité. Je pense que c'est ça dont on a besoin et qui vient compléter le reste qui est assez bien possédé déjà par nos organisations et nos professionnels de la randonnée et de la marche.
Le difficile et l'inutile. Y a le tour de l'île, 42 000 de choses tranquilles pour oublier grandes blessures dessous l'armure. Été, hiver. Y a le tour de l'île, l'île d'Orléans. L'île, c'est comme Chartres, c'est haut et propre, avec des nefs, avec des arcs, des corridors et des falaises. En février, la neige est rose comme chair de femme. Et en juillet, le fleuve est tiède sur les battures. Au mois de mai.
Alors, chers amis, c'est ainsi que se termine notre émission. Je tiens à remercier notre invité, Danielle Landry, dirigeante et fondatrice de l'organisme De Ville en Forêt. Vous pouvez d'ailleurs la joindre à son site devilleenforêt.com. Je vous rappelle les titres des livres qu'elle nous a suggérés. « Almanach d'un comté des sables » de Aldo Léopold et « Paroles d'un bouleau jaune » de Michel Leboeuf. Merci à notre technicien complice, Valérian Fournier, que je salue de votre part. Et merci à vous toutes et tous d'avoir été des nôtres pour marcher vers le bien-être. À la prochaine.